Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, notre troisième de cette cinquième saison. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Henri Martin.
Bonjour à vous.
Maire de Port-la-Nouvelle, un des vice-présidents du Grand Narbonne chargé des grands projets. Et on va voir qu'il y en a des grands projets sur lesquels on va revenir tout à l'heure. Mais le sommaire de Michel prévoit tout d'abord de commencer par ce cataclysme qui s'est abattu sur notre département il y a quelques jours. On continuera alors par un autre type de cataclysme politique, politicien celui-là, Jean-Luc Mélenchon et ses incartades, faute de meilleurs qualificatifs. Après quoi, dans une deuxième partie, eh bien, on parlera des difficultés qu'ont parfois les maires à faire bien fonctionner leurs services technique notamment, et c'est le cas, ça a été le cas apparemment de Didier Mouly et de ses services à Narbonne, à propos d'un cas particulier que tu évoqueras, Michel, et nous finirons par la prison. Il y en aura pas à Narbonne, et Michel dira entre guillemets, je vous l'avais bien dit il y a deux ans.
Au mois d'octobre.
Alors tout d'abord, évidemment, ce cataclysme est à la fois imprévisible et puis relativement prévisible, tant on sait que chez nous c'est épisodique.
Oui, Jean-Claude. C'est dans cette nuit du 15 au 16 octobre, jamais comme cette nuit-là, en fait, le sentiment du dérisoire et de l'insignifiance parfois de la vie politique, en tout cas telle que la rapporte et la commente nos faiseurs d'opinion, ne m'a paru aussi manifeste. Et ce sentiment-là, persistant, quoi, hein, de voir dans le miroir que nous tendent, en fait, ces faiseurs d'opinion, ces misérables gesticulations, singeries, faites à l'annonce publique, par exemple, hein, de la composition du nouveau gouvernement, il y a quelques minutes à peine, m'en donner l'affligeante démonstration. Souviens-toi, en fait, Jean-Claude, mon Dieu, comment cette attente de ce remaniement était insupportable.
Ah oui, bon, moi, personnellement, j'en ai beaucoup souffert.
Mon Dieu, que ces changements d'hommes et de femmes importent au présent et au devenir de notre société. Nous chanter à ce moment-là.
T'as pu dormir quelques nuits, Michel?
Franchement. Et que d'articles et commentaires en stock, de chez nous, faiseurs d'opinion sur les boutons de manchette de Monsieur Castaner ou le costume de Monsieur Philippe. Et que de cris, en fait, on va entendre, on les entend déjà d'ailleurs, sur le plateau de télévision. Mais, Jean-Claude.
Et une autre réalité.
Mais qui dira la stupeur, le désarroi, la tristesse, le sentiment d'abandon de ceux qui, depuis cette fameuse nuit-là, quoi, et triste nuit, ont vu, leur village dévasté. Qui dira les nuits blanches de ces hommes et de ces femmes, leurs pleurs, leur misère, la perte, en fait, de deux proches. Qui dira aussi le courage et le dévouement d'hommes, de femmes, sapeurs-pompiers, des gendarmes, en fait, des voisins, en fait, bref, des gens, des anonymes, qui ont porté, qui ont donné de leur temps, de leur force, de leur courage, de leur affection à tous ces sinistrés de notre département. Et qui dira enfin le pathétique de la recherche de boucs émissaires pour expulser sa colère ou marchander ses papiers, valoriser, fait, ses tirages ou son audimat, vendre ses analyses et vanter ses programmes. Alors que, Jean-Claude, rien jamais ne pourra totalement, en fait, expliquer ce qui est arrivé dans notre département avec toutes ses conséquences et toutes ses misères, encore une fois, ses morts, en fait, et ses pleurs. Absolument rien. Et pourtant, on en est toujours dans nos sociétés modernes, en fait, à tenter de trouver, en fait, des causes mécaniques, en fait, à tout ce qui nous arrive, en fait, de bon, en fait, ou de mauvais, de triste, en fait, ou de dramatique. Et pourtant, il faut bien que nos auditeurs, en fait, et en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, et je ne peux pas ne pas le dire, qu'il y a, en fait, dans la vie, en fait, des hommes et des femmes, en fait, comme dans la vie des sociétés, une chose avec les caractéristiques qui est évidente, me semble-t-il, quand on est touché personnellement, et on a pu l'être dans ce département, c'est le sentiment tragique, justement, de toute vie, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit sociale ou qu'elle soit collective. Et que ça, en fait, hélas, on n'y peut
rien. Ben, on est dans l'impuissance.
On est dans l'impuissance totale, en fait, et que à vouloir, dans ce contexte-là, en rajouter sur la recherche justement de boucs émissaires et à rechercher des causes, on ne fait que mettre en évidence, me semble-t-il, le caractère encore plus dérisoire en fait et mesquin de toutes ces tentatives pour tenter d'expliquer l'inexplicable.
Oui, voilà. Mais bon, mais et comme je le disais finalement quand même au début, on sait que nous vivons dans un département qui, par son climat, par son relief, est sujet à ce genre de caprice et de drame. Mais quant à dire que c'est la faute à un tel, évidemment, c'est absurde et c'est indécent. Absolument.
Oui. Nous sommes bien d'accord.
Alors, continuons à propos d'indécence. Il y a peut-être une transition de trouver. Celle-ci est plus politicienne et gesticulatrice. Oui, c'est celle de Jean-Luc.
Mais évidemment, parce que vu de notre département et avec les drames que nous avons vécus, j'étais Jean-Claude. Franchement, quoi, hein. Ces images de cette arrogante personne là qui donnait à voir par elle-même, bien sûr Jean-Luc Mélenchon, hein, était désolante de vulgarité, de violence et de mépris. Et d'ailleurs, elle grossissait presque jusqu'à l'absurde. Hein, le fond, c'est mon point de vue, de sa conscience politique. Enfin, quand même, ces images, ces yeux exorbités, emplis de rage, ses joues qui vibraient, éclatées.
Et en plus, se mettant en scène lui-même,
c'est ce
comme s'il était heureux de
ce que dirait le sang, quoi. Ces mots, mais crachaient la figure d'un gendarme qui restait d'ailleurs dans le calme, extraordinaire. Qui pouvait résister à ce genre de provocation, sinon un homme d'une grande qualité, justement.
Remarquable.
Bref. Tout dans son comportement criait, faites sa vérité à cet homme. Je parle de Mélenchon, quoi, hein, celle d'un homme politique, à l'évidence, malade du pouvoir, hein, qui sans cesse se regarde, s'écoute, s'admire. Enfin, quoi, ne touchez pas à ma personne, elle est sacrée. Je suis la République, à moi tout seul. Je suis le peuple. Je suis Dieu. En fait, à la limite, aurait-il pu dire, en fait, hein.
À propos de sacré, d'ailleurs, ça m'inspirait un petit mot. Est-ce qu'il est vraiment consacré ou alors à l'inverse?
Oui, bien sûr.
Mais
plus grave, Jean-Claude, la justice avec un grand J. Le respect de ces procédures mais qui garantissent justement l'égalité de traitement de tous les citoyens devant la justice.
Ah oui,
j'en ai rien à foutre.
Tous les citoyens, sauf Jean-Luc.
Hein, exactement, je n'en ai rien à faire, pour être poli, quoi. Alors imaginons quand même deux secondes, Jean-Claude, que ce genre de comportement ait été celui d'une Madame Le Pen, par exemple, et de ses nervis. De ses militants.
On aurait entendu Jean-Luc s'offusquer.
Pas que Jean-Luc. Tous les médias auraient sonné le tocsin. Le fascisme est à nos portes. Mais regardez, ces gens, s'ils sont au pouvoir demain, c'est Pétain au mieux, Hitler au pire. Alors que, lisant mon journal le lendemain, mon quotidien régional, je tombe sur un éditorial de monsieur que je ne citerai pas, et qui dit ceci. Ce monsieur Mélenchon, quoi, l'émotion est au cœur de son projet, il faut pas trop s'en. Et pour toute une nouvelle gauche, dit-il, cet éditorialiste, la priorité, c'est quoi, c'est de se réapproprier un discours affectif. Je ferme les guillemets.
Affectif, sinon affectueux.
Soyons sérieux, donc Mélenchon, il a été pris par son émotion et il tient un discours affectif pour être encore plus crédible, paraît-il, auprès d'une gauche qui a perdu effectivement ses parties de ses représentants. On en est là, quoi. Pour en revenir d'une certaine manière à notre région et à notre département, la dernière des dernières, prendre à partie une journaliste qui avait le tort. Le tort comme ontologique, de parler avec un accent du Sud. Et qu'il a, Mélenchon l'envoyé en pêtre à 10 mètres devant d'ailleurs ses collègues journalistes, avec cette phrase absolument incroyable, « Parlez-moi en français, s'il vous plaît, je ne comprends rien à ce que vous dites. »
Voilà.
De sorte que, à la fin, je ne pouvais pas ne pas me dire, mais qu'est-ce que c'est que cet individu, qu'est-ce que c'est que cet individu? Mais en même temps, il nous est apparu tel qu'il est, c'est-à-dire nu, avec sa vérité, sans principe et sans valeur.
Voilà. Mais ce qui est le plus drôle, et on semble l'oublier aussi, c'est qu'il est élu de Marseille. Alors, est-ce que les types qui ont l'accent marseillais, qui ont voté pour lui, ils se paient aussi leur tronche? Je pose la question. Et puis je terminerai par alors mon contre-regard à moi, celui-là, Michel. Imaginons Jean-Luc à Marseille, qui prenne l'accent de Marseille et qu'on réécrive la trilogie de Pagnol.
Non, mais
avec une ou deux citations d'anthologie. Et Jean-Luc, cette perquise, elle te fale le cœur.
Non, mais Jean-Claude.
Ou alors, je garderai la dernière avant de marquer la pause. La police française, je lui dis merde à la police française. Voilà. Et on marque une première pause.